Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro des Fous du Volant, le début de la saison 2, épisode 1, en compagnie de mon camarade d'Eurosport.fr, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane.
Salut Gilles, ça fait plaisir de se revoir.
Tu me voles mes mots, exactement, on est très heureux de se retrouver, d'abord toi Stéphane, et puis tous ceux qui nous ont suivis de plus en plus nombreux tout au long de la première saison. Et bien c'est reparti dans quelques jours maintenant, hein, le début de la saison 2021, on va parler aujourd'hui du débrief des essais hivernaux qui ont eu lieu à Sakhir, à Bahreïn. Tout ce qu'il faut savoir sur ces trois jours d'essais, on va en parler avec Stéphane. On va aussi s'attarder sur le cas de Alpine, donc, qui succède à Renault en Formule 1. Et on fera un focus sur un membre particulier de cette équipe Alpine, David Brivio, le nouveau directeur sportif de cette équipe. On aura un invité pour parler de l'Italien. C'est Jacques Hutto, qui a été longtemps consultant pour Eurosport, qui connaît très très bien les Grands Prix moto et qui nous parlera justement des qualités de David Brivio. On va parler dans un troisième temps de Lewis Hamilton. Évidemment, on a attendu jusque début février la signature entre Mercedes et le Britannique, donc un contrat d'un an. Alors, on parlera des dessous de ce contrat entre le Britannique et la firme allemande. Et puis, pour terminer, un petit truc un peu plus léger, Stéphane, on a fait le classement avec les membres de la rédaction, le classement purement sur l'esthétique. Alors là, c'est vraiment du goût, seulement du voilà, nos avis à nous, le classement esthétique des Formule 1 de la saison 2021.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on débute donc avec le premier sujet. Tous les fans de Formule 1, Stéphane, ont attendu ces trois jours d'essai qui ont eu lieu là. Ça s'est achevé il y a quelques jours à peine sur le circuit de Sakhir avec donc tout le retour de toutes les Formule 1. Je te propose peut-être. Alors, on va donner les chronos, Stéphane. Peut-être déjà dire que les chronos, on sait que c'est pas très très indicateur de la performance et de la valeur des Formule 1, mais c'est quand même l'échelon imparable en sport mécanique. On les montre d'abord, ces chronos, la meilleure performance pour Max Verstappen, 1:28.960 à bord évidemment de la Red Bull. Ensuite, c'est Tsunoda, le nouveau venu chez AlphaTauri, qui a fait le deuxième temps. Carlos Sainz qui a fait le troisième temps chez Ferrari, bon début au sein de la Scuderia. Kimi Raikkonen quatrième temps et Lewis Hamilton cinquième. Peut-être déjà, Stéphane, toi tu voulais faire une remarque sur le choix éventuel des pneus des uns et des autres qui conditionnent beaucoup les chronos.
Oui, puisque Pirelli a imposé en fait pour des raisons de sécurité des pneus un petit peu plus résistants, donc plus lourds, qui pèsent 3 kg de plus sur l'ensemble du set de 4 pneus. Les pilotes ont grogné l'année dernière en les testant, ils les avaient rejetés massivement et puis ils vont devoir faire avec, donc ça veut dire refaire des réglages. Déjà, c'est un paramètre quand même très important qui change. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a eu finalement peu de grippe sur la première journée à Sakhir. Un vent, des rafales même à 47 km/h, donc c'est déjà beaucoup hein, pour une Formule 1. Au final, une notion un petit peu de un sentiment de flou, comme si on avait assisté à trois vendredis de Grand Prix, c'est-à-dire que le bilan, c'est on ne sait pas trop, il faut voir, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Donc, une grille des temps qui est difficilement lisible. Et j'ai l'habitude de me dire, quand je vois ces choses-là, justement, c'est que quand on est premier, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais quand on est dernier, oui, ça veut dire quelque chose.
On est bien d'accord, parce qu'on essaye toujours hein, de se montrer un peu sous un bon jour. Mais donc, on met vraiment en bémol la valeur absolue des chronos. On va plus parler, nous, de tendance, de ce que l'on a ressenti, des impressions des pilotes à travers leurs interviews, leurs réponses, les images qu'on a vues aussi, hein, parce qu'évidemment, c'était filmé. Et on va commencer, je te propose, Stéphane, par Red Bull. Crédité du meilleur temps avec Max Verstappen. Et alors, j'ai eu, moi, le sentiment que l'auto était beaucoup plus stable par rapport à la saison dernière, et puis aussi que le moteur Honda, pour sa dernière saison officielle au sein de la Red Bull, a encore progressé. Autrement dit, Red Bull et Max Verstappen se montrent, en tout cas, ont montré les muscles. Ça leur va bien, et je crois que c'est un rôle qu'ils ont endossé avec plaisir.
Oui, Helmut Marko, le conseiller de l'écurie, a dit que globalement, tous les feux étaient au vert. Il y a eu des progrès dans tous les domaines. Verstappen s'était plaint l'année dernière d'une voiture pointue, difficile à exploiter dans une fenêtre de fonctionnement optimal très, très courte. Et puis, par conséquent, des variations de comportement et de compétitivité par temps chaud ou par temps plus froid. Et il voulait un petit peu plus de constance dans les prestations de sa voiture. Et c'est visiblement ce qu'il a obtenu. Donc déjà, Red Bull a peut-être même mieux interprété le règlement cette année, puisqu'il y a eu une coupe sur le fond plat juste devant les roues pour limiter les performances du diffuseur, en fait, et réduire l'appui généré par le diffuseur de 10%, donc, ce qui est quand même pas rien, et peut-être que Red Bull s'en est mieux sorti que les autres.
Exactement. On en reparlera hein, de ces diffuseurs, parce que, alors, des diffuseurs et aussi des fonds plats qui ne sont pas tout à fait plats pour certaines équipes. Je pense notamment à Mercedes. On n'a pas eu la même révolution hein, que l'année dernière avec le système DAS. On va attendre de voir. Puis, on a tellement de choses à évoquer aujourd'hui que là, on peut faire une émission de 4h30. L'autre nouveauté chez Red Bull, c'est l'arrivée, évidemment, de Sergio Pérez, qui a dû s'adapter à cette voiture. Et moi, j'attendais beaucoup de voir Sergio Pérez au volant de la Red Bull, parce qu'il a piloté depuis des années et des années des monoplaces sur base de Mercedes, c'est-à-dire une auto très à l'horizontale. Et là, il arrive chez Red Bull, où on sait que les autos sont très, très régulièrement réglées avec du pitch, c'est-à-dire avec l'auto basculée sur l'avant, les fesses en l'air, en gros. Évidemment, ça change la philosophie de pilotage de l'auto. Force est de constater qu'il s'en est très, très bien sorti. On a vraiment deux pilotes de pointe là chez Red Bull.
Oui, et Pérez a fait une petite révolution en l'espace de 2 ans, puisque l'ancienne Force India, en fait, était caractérisée par des appuis finalement faibles. C'était une voiture orientée, typée, circuit rapide. L'année dernière, ils ont pu rajouter de l'appui avec une copie, je dirais, des fondamentaux de la Mercedes en termes d'aéro. Donc là-dessus, il y avait un progrès. Et puis l'ADN de la voiture s'est encore un petit peu plus déplacé, sa voiture cette année. C'est que maintenant la Red Bull, c'est celle qui embarque le plus d'appui, donc ça change beaucoup de choses dans le style de pilotage de Pérez, dont on disait l'année dernière chez Racing Point qu'il ne s'adaptait pas à tous les circuits, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je pense que déjà il s'est bien positionné, il s'est bien adapté à la voiture. Oui, tu le dis, Gilles,
et c'est bien intégré aussi à l'équipe. Alors ça sera évidemment à un peu plus long terme, mais ça faisait partie évidemment des grosses curiosités. Habituellement, c'est toujours un petit jeune qui arrive chez Red Bull. Là, maintenant, c'est Sergio Pérez. On va parler de Mercedes parce que, on l'a dit, cinquième temps pour Lewis Hamilton. Bon, un petit peu loin quand même des chronos de Max Verstappen, et puis surtout des problèmes de boîte de vitesse. Une voiture un petit peu rétive, difficile à conduire. Alors, je le disais, On n'a pas eu la révolution qu'on avait eue à Barcelone l'année dernière avec ce système DAS hein, qui changeait le carrossage des roues avant sur la Mercedes. On a fait beaucoup plus sobre, quelques pépins techniques, des chronos en retrait. Est-ce que vraiment il y a le feu chez Mercedes, ou est-ce qu'on est plutôt content d'avoir passé la patate chaude du rôle de grand favori à Red Bull? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, je pense pas que c'était un... un objectif de faire apparaître Red Bull comme les favoris à l'attaque du championnat. Ils ont fait un effort important sur le fond plat aussi, avec qui est un petit peu strié sur les côtés. C'est un traitement différent de ce qu'ont fait les autres écuries. L'année dernière, ils avaient fait un gros effort sur l'ancrage des suspensions à l'arrière pour ménager plus d'air, pour mieux alimenter à l'arrière de la voiture qui génère de l'appui. Cette année, peut-être qu'ils s'en sortent moins bien avec ça. Ils ont mis tout leur jeton de développement là-dessus, puisqu'il faut le rappeler, il y a un GL technique, mais les équipes peuvent annoncer deux domaines dans lesquels elles travaillent particulièrement, et Mercedes a travaillé là-dessus. Mais Bottas a dit effectivement que le train arrière était vif et impitoyable, et ça n'augure pas de très très bonnes choses sur toutes les manches du championnat cette année pour le Finlandais.
Non, et on a vu hein, Lewis Hamilton se battre avec sa voiture, partir même à la faute. C'était assez spectaculaire. Bref, on va le dire tel qu'on le pense, on ne joue pas forcément la comédie du côté de chez Mercedes. Lewis Hamilton a dit il va falloir qu'on travaille. Est-ce qu'on peut enlever Mercedes du statut de favori? Certes non, je pense qu'on est d'accord, Stéphane, mais la marge n'est plus du tout la même que celle d'avant le premier Grand Prix l'année dernière.
Oui, tout à fait. Et puis, surtout, ce qui leur a manqué, c'est des tours, c'est des kilomètres abattus. Vendredi, sur un problème d'hydraulique de boîte de vitesse, ils ont perdu plus de 3 heures de roulage. C'est gigantesque quand on n'a que trois jours pour mettre au point une voiture, pour la découvrir, pour amasser des data et ensuite les décortiquer. Et pour retourner, enfin rester sur ce circuit et retourner à la compétition le 28 mars pour le Grand Prix, il y a une petite pointe d'inquiétude, je pense, à avoir du côté de Mercedes là-dessus.
Alors justement, pour souligner tes dires, on va voir le tableau hein, des tours effectués écurie par écurie. C'est les Italiens qui ont travaillé le plus. Alfa Tauri, 422 tours. Alfa Romeo, exactement le même nombre de boucles. C'est donc les tours cumulés par les deux voitures éventuellement mises en piste en même temps et sur les trois jours d'essai. Ferrari, 404. Eh ben dis donc, on a bossé hein, de l'autre côté des Alpes. Alpine, 396 tours juste devant Haas. Ensuite, Red Bull, 369. Et donc, après, McLaren, 327. Aston Martin, 314. Et Mercedes, le cancre, qui a donc fait seulement, entre guillemets, 304 tours de ce circuit, avec effectivement quelques petits pépins. Ça, c'est important, Stéphane, parce que tu le disais, il y a les impressions des pilotes, et puis il y a derrière toutes les datas. Là, au moment où on parle, tous les ingénieurs sont en train d'analyser toutes les datas collectées sur ces 304 tours pour Mercedes pour essayer de tout comprendre. C'est vraiment de la donnée cruciale.
Oui, et puis Gilles, j'en reviens au tableau qu'on a montré, le tableau des chronos au début de ce sujet. Hamilton a fait son chrono avec le type le plus tendre de la gamme Pirelli, les C5 qui ne seront pas proposés à Bahreïn pour le Grand Prix. Ce sont les les C2, C3 et C4 quand on va du plus dur vers le plus tendre. Donc ça veut dire qu'il a même un petit peu dopé sa performance et donc ce n'est pas très représentatif. En revanche, Verstappen, il a tourné avec les C4, les pneus qui seront utilisés pour la Q3 et pour le premier relais en course. Et donc là-dessus, pour lui, je pense que tout va bien. Et Mercedes est vraiment aussi un peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Et c'est même un petit peu curieux que Hamilton n'ait pas poussé plus que ça. Franchement, là-dessus, il y a un petit point d'interrogation parce qu'on aime bien se rassurer avec un bon chrono. Il s'est remis du Covid, mais il était fatigué en fin de saison dernière. Donc, on aime bien faire le point. Et là-dessus, on n'a pas vraiment de réponse.
Non, on va voir ça. On sera très, très curieux de voir. Je pense que physiquement, il sera au point là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des questions du côté de chez Mercedes. On va parler de Ferrari parce qu'évidemment, on disait que les Italiens avaient beaucoup travaillé. Et en Italie, on attendait de voir si Ferrari avait corrigé ce problème de vitesse de pointe, ce problème de moteur qui a plombé la saison 2020 pour la Scuderia. Et alors, ça a été assez étonnant. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, Stéphane, mais ça a été tout de suite. Hein. Quasiment, il y a eu deux tours de feu. On a dit « Ah, ça y est, le problème est réglé. On n'a plus de problème de vitesse de pointe. » C'était comme il fallait exorciser ce problème de vitesse de pointe. Et pour autant, alors, on a sans doute bien travaillé dans ce domaine-là. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment qu'on ait véritablement des choses à tirer de ces 3 jours d'essai de Ferrari. Je ne sais pas trop où les placer, en fait.
Ouais, Charles Leclerc a dit qu'il se trompait à chaque fois qu'il émettait un avis sur la compétitivité de la Ferrari en test. Donc là, il se tairait au risque de se tromper encore. Les pilotes n'ont pas parlé d'un surcroît de puissance phénoménal, alors que Ferrari avait quand même avait annoncé avoir travaillé sur ce plan-là. Binotto a dit lors de la dernière journée de test, un petit peu timidement, la VMAX a l'air correcte. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense en fait qu'ils ont dû gagner de l'appui en réduisant la traînée. C'est un petit peu le chemin qu'on essaie d'emprunter, puisque c'est une solution doublement vertueuse, forcément, et que c'est plutôt là-dessus que se situent les progrès de Ferrari. Mais la voiture était tellement faible, manquait tellement de grippe l'année dernière que on aura la vraie réponse lors des essais à Bahreïn au Grand Prix.
C'est ça, à la fin de la première qualif, on aura sans doute déjà un peu plus d'informations, mais c'est vrai que chez Ferrari, on voulait se rassurer et puis accueillir aussi Carlos Sainz. On sait qu'il y a eu des programmes de travail très différents, hein, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui a fait 3 belles journées d'essai pour la Scuderia.
Il est surtout content de sa collaboration avec Sainz parce qu'en fait, ils ont la même façon de régler la voiture. Ce qui n'était pas du tout le cas avec Vettel l'année dernière.
Vettel.
Donc, les échanges sont forcément limités de ce point de vue-là. Vettel a balancé sa saison l'année dernière. Donc, Leclerc est content de retrouver au moins un point de repère pour étayer un petit peu ses jugements, ses chemins de direction en termes de réglage. Je pense que là-dessus, au moins, Sainz va lui apporter quelque chose.
Alors, on a parlé du nombre de tours pour chaque équipe. On s'est intéressé aux motoristes. Et là, vous allez voir aussi que les Italiens ont été les plus efficaces, puisque les équipes propulsées par les moteurs Ferrari ont fait en moyenne 406 tours. Alpine, avec le moteur Renault, a donc fait 396 tours. En Honda, 395. Et Mercedes, 329. Toujours lanterne rouge, hein, pour le moteur allemand.
Il paye le manque de roulage en fait de vendredi matin, puisque c'est une moyenne par voiture, par moteur, qui équipe chaque voiture. Donc ça se ressent aussi là-dessus. Mais c'est toujours important en fait aussi pour les motoristes d'avoir des clients qui tournent bien. Et donc là-dessus aussi, chez Mercedes, on n'est pas très rassuré. Cet hiver, ils avaient dit qu'ils étaient un petit peu inquiets aussi. Ils avaient eu des problèmes de développement sur le moteur. Ça semble un petit peu là aussi se confirmer dans ce constat.
Alors, on va aussi évoquer le cas de Alpine, parce que évidemment, cette voiture désormais bleue, on parlera, hein, de l'allure et de la décoration de ces autos un petit peu plus tard. Évidemment, l'attraction chez Alpine, c'était le retour de Fernando Alonso. D'abord parce que c'est pas tous les jours qu'un double champion du monde à la retraite revient à l'activité. Deux, parce qu'il a eu un accident de vélo il y a un gros mois maintenant, donc avec une fracture de la mâchoire, et que tout le monde attendait de voir un peu dans quel état de forme il était. Bon, je crois qu'il a plutôt rassuré tout le monde, l'Espagnol.
Il a marqué son territoire. C'est lui qui a fait le meilleur temps chez Alpine par rapport à Ocon. C'est toujours une façon de se positionner. Hein. 1:30 318, je vois. Donc, c'est un temps de très bonne facture. Donc, maintenant, il y a plus qu'à. Il a retrouvé ses repères, mais quand même dans un environnement qui a complètement changé par rapport à son dernier passage chez Renault. Le boss, son ingénieur de voiture, son ingénieur principal, etc. Donc, il a pris ses marques au moins à ce niveau-là. Et on sent même, hein, quand on voit, quand il est en présence d'Esteban Ocon, que c'est un peu lui le patron, déjà. Donc, à voir sur la première séance de qualif, mais. Je ne sais pas s'il sera devant Ocon sur le premier Grand Prix. Il lui manque encore peut-être un petit soupçon de vitesse qu'il a travaillé, mais il n'a eu qu'une seule journée et demie, ce qui est faible quand même pour préparer une saison.
Oui, parce qu'on sait, il n'y avait pas deux voitures, hein, il n'y avait pas deux Alpines le vendredi et deux Alpines le samedi. Alpine avec un dessin assez particulier, hein, c'est la voiture peut-être qui, sur le dessin d'ailleurs, tranche le plus avec les autres. Une entrée d'air très, très importante au-dessus de la tête du pilote, et une voiture un petit peu trapue, un petit peu bossue en fait.
Mais elle est quand même étroitement dérivée de la Renault, mais effectivement, c'est un petit peu intrigué et c'est pour déplacer en fait les flux d'air. pour mieux alimenter l'arrière de la voiture. Donc, c'est un travail important qui a été fait à ce niveau-là. Ils ont mis leurs jetons là-dessus. Espérons que ça paye parce que c'est un chemin qui est différent des autres écuries. Donc, il faut voir dans quelle mesure ils vont tirer le bénéfice.
Exactement, ça sera très intéressant de voir ça. On en reparle d'Alpine dans la deuxième rubrique des fous du volant. On termine avec Aston Martin. Stéphane, si tu veux bien, avec là aussi des problèmes de boîte de vitesse, ce qui est à peu près logique puisqu'ils reprennent la boîte de vitesse fournie par Mercedes. Et je reste quand même sur un certain sentiment de déception, pour pas dire d'inquiétude, parce que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose chez Aston Martin et que Sébastien Vettel, alors évidemment, voilà, c'est les tout débuts, mais que Vettel, je pense qu'il s'attendait à mieux.
Il a dit, je dois changer beaucoup de choses dans mon pilotage pour piloter cette voiture qui est très différente, qui a un ADN différent de la Ferrari. Et je crois que ça n'augure pas d'une très bonne saison. Franchement, quand un
C'est une
pilote.
façon polie de dire, j'ai pas encore compris comment aller vite avec.
C'est ça. Et puis surtout, à l'âge où il a, la difficulté, c'est de se remettre en question, c'est de changer complètement son pilotage. Et on sait que les pilotes, en fait, il y a beaucoup de pilotes qui sont poussés vers la retraite. Par un manque d'aptitude à changer pour s'adapter aux nouveaux comportements, aux nouveaux règlements. Et j'ai peur que Vettel aussi soit atteint un petit peu par ce syndrome.
Qu'on en soit là. Voilà, à surveiller, mais moi, ouais, honnêtement, petite inquiétude du côté de chez Aston Martin. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire, hein, sans trop rentrer dans les détails et sans se casser la tête sur ces 3 jours d'essai à Sakhir avant le début de la saison 2021. Pour cette deuxième rubrique des fous du volant, on a un invité, mon cher Stéphane, en la personne de Jacques Hutto, qui a été pendant 4 saisons. Camarade en cabine de commentaires sur les Grands Prix moto en Moto 2 et Moto 3. Jacques Hutto, c'est un ancien pilote de Grand Prix moto qui a travaillé pour l'IRTA aussi, l'association des équipes en Grand Prix moto, qui a travaillé pour Elf, qui est désormais chroniqueur chez nos amis de Sport Bikes. Et on est heureux de t'accueillir, mon cher Jacques. On va se tutoyer, hein, évidemment.
Merci, Gilles, ça fait tellement plaisir. C'est sûr que alors, je viens d'apprendre énormément de choses avec Stéphane, c'est passionnant. Là, j'ai révisé largement mes cours de Formule 1. Merci, les gars.
Et alors, les amateurs de Formule 1 se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Jacques Hutto? Eh bien, évidemment, on va parler de Alpine et du nouveau venu, du directeur sportif d'Alpine, David Ébrivio, qui vient des MotoGP, hein, qui est champion du monde en titre avec l'équipe Suzuki. D'abord, Stéphane, on va peut-être expliquer, hein, que au moment où Renault a cédé la place à Alpine, il y a eu aussi pas mal de changements. Déjà, le départ de Cyril Abiteboul, qui vraiment portait à bout de bras le projet Renault en Formule 1. Il y a toujours Marcin Butkowski. Et donc, l'arrivée de David Ébrivio en tant que directeur sportif, avec Pat Fry à la direction technique chargée du châssis à Enstone, et Rémi Taffin, qui lui a en charge le moteur, et on travaille donc du côté du moteur en région parisienne à Viry-Châtillon. C'est déjà un changement important quand même de faire venir un directeur sportif nouveau et en plus d'un autre univers. Est-ce que tu as, toi, en mémoire une recrue comme ça qui vient d'en dehors de la Formule 1? Honnêtement, moi, j'en ai pas trouvé.
Oui, alors il y a l'exemple de Flavio Briatore, qui était un homme de marketing qui a pris en charge la direction de Benetton et qui savait même pas ce que c'était qu'un marteau. Enfin, j'exagère, mais à peine, voilà. Et qui disait non, mais c'est pas ma partie, c'est juste ça. Mais après, il faut savoir gérer les hommes, c'est surtout ça. Mais je n'ai pas exactement de souvenir de quelqu'un qui vient d'un autre domaine et
C'est osé.
Qui arrive en Formule 1. Mais alors, Briatore s'est exprimé sur David Ébrivio. Il a dit, il va mettre quelques mois pour comprendre comment ça fonctionne et après, ça ira. J'ai confiance en lui, ça va le faire. Il a dit, moi aussi, j'étais un petit peu comme ça. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les codes de ce sport et la façon même de gérer des pilotes qui ont quand même des égos surdimensionnés.
Oh, ben ça, David Ébrivio, il en a croisé quelques-uns des pilotes qui avaient de l'ego. On va en parler avec Jackie. David Ébrivio, c'est donc un Italien qui a 56 ans et qui a un parcours assez incroyable. Jackie, d'abord, il avait commencé par gérer les Yamaha en Superbike. Et c'est plus ou moins lui qui a fait donc venir Rossi chez Yamaha. Rossi, était à l'époque chez Honda. Et quand Honda a commencé à dire non, mais c'est pas Rossi qui gagne, c'est la Honda, et David Ebrivio, il avait des bonnes relations évidemment avec Rossi, et c'est lui qui l'a fait venir chez Yamaha.
Ah, complètement, il a réussi des paris absolument impressionnants, notamment celui-là. Ça a été certainement l'une de ses plus belles réalisations. Faire partir Rossi chez Honda, où il se trouvait a priori bien, mais jusqu'à la phrase que tu viens de dire, chez Honda, on disait non, ce sont les motos qui gagnent et non pas le pilote. Il ne fallait rien de plus pour que Rossi s'en aille, rejoindre son copain Brivio, donc chez Yamaha en l'occurrence. Brivio, il a commencé au début, il a voulu faire un peu de motocross. Il s'est vite rendu compte que ce n'était pas sa tasse de thé. En fait, il est né à Monza. Donc, Monza, tout le monde connaît bien évidemment, Formule 1, moto, le bruit du circuit, etc. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé à rejoindre les milieux motorisés.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que David Ebrivio, il a fait d'une équipe Yamaha qui était quand même en charpie avant l'arrivée de Valentino Rossi, une véritable machine à gagner, après ensuite l'arrivée de Jorge Lorenzo. Et puis, quand Rossi est parti chez Ducati, déjà, Brivio a pris un petit peu de retrait et ensuite il s'est retrouvé chez Suzuki. Et cette année, le champion du monde MotoGP, il est chez Suzuki. Je vous admire, c'est quand même un incroyable défi, un incroyable challenge qu'il a relevé. Qui pouvait penser que le pilote champion du monde serait chez Suzuki cette saison, Jackie?
Oh ben, je crois personne. Ouais. Je pense que là, de toute façon, tout le monde a eu tout faux. On a cru pendant un moment, évidemment, que notre petit Français, Fabio Quartararo, allait remporter le titre parce qu'il était bien parti en début d'année. Et puis voilà, à force de régularité, à force d'être là au bon moment, à force de savoir compter les points sur les doigts de sa main et peut-être en rajoutant la deuxième, eh bien, du coup, ben, c'est vrai, c'est le jeune talentueux Mir qui est devenu champion du monde. Et tout ça, sous l'égide, sous la direction discrète, je dirais, parce qu'il est discret, en fait, notre ami...
David Ebrivio, t'as pas l'habitude de parler de David Ebrivio en Formule 1. On parle
de lui, j'oublie son nom, c'est grave. Et donc c'est vrai que bon, mais il a su par contre créer autour de lui toute une belle équipe, parce que c'est lui effectivement qui a ramené Suzuki en Grand Prix. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, il a été contacté par Facebook par Sahara San, qui est le patron de chez Suzuki, pour savoir à ce moment-là si Rossi serait d'accord pour rejoindre l'écurie Suzuki. Donc, David Ebrivio a demandé à Valentino, qui a refusé, et Sahara a continué en disant, écoute, si Rossi ne veut pas venir, moi, par contre, j'aurais bien besoin de toi. Et voilà donc notre ami David Ebrivio qui a rejoint Suzuki et qui a tout créé autour de lui, et l'équipe, fait venir les mécaniciens, choisit les pilotes, etc. Aux grandes dames d'ailleurs de Johann Zarco, qui en fait a failli être embarqué dans l'affaire. On se souvient qu'il est allé faire des essais au Japon, des essais qui avaient été brillants. Et puis au dernier moment, c'est Rins qui lui a été préféré. C'est bien dommage parce qu'on aurait beaucoup apprécié d'avoir Johann Zarco à l'usine Suzuki. Je suis intimement convaincu qu'à la place de Mir, alors évidemment avec les si on peut refaire le monde, mais je suis intimement convaincu que Johann Zarco aurait été champion du monde sur la Suzuki, et on en avait parlé bien avant la fin de cette année 2020. J'en suis mais convaincu. Johann Zarco sur la Suzuki, ça aurait fait énormément de bruit. Mais bon, revenons à David Ebrivio.
Ouais. Et à la Formule 1.
Et à la Formule 1, il est parti vers la Formule 1. Il a eu cette superbe proposition qu'il n'a pas su refuser.
Alors, vas-y Stéphane, vas-y.
Alors, en parlant de Yamaha, on a parlé de Rossi et de Lorenzo. Et à un moment, Yamaha avait dressé un mur entre Lorenzo et Rossi dans le garage. Ça, c'est un échec en termes de management. Comment est-ce que Brivio finalement avait accepté ça et comment est-ce qu'il avait constaté qu'on avait là deux caractères qui étaient inconciliables et qui ne travaillaient plus ensemble? Parce qu'en Formule 1, finalement, ça risque aussi de se reproduire.
Ça peut se produire, je crois, à n'importe quel moment. Quand il y a des personnalités, comme tu viens de le dire, avec un caractère aussi fort, avec un ego aussi fort, il est vrai que Valentino Rossi n'acceptait pas Lorenzo. Lorenzo arrogant, Lorenzo toujours... désagréable, je ne sais pas, mais en tout cas très arrogant, évidemment, et ça gênait Valentino, qui ne voulait surtout pas voir la tronche du gars d'à côté. Et en fait, on a érigé cette séparation. En fait, quand on parle d'un mur, ce n'est qu'une séparation à mi-hauteur pour bien marquer le territoire de chacun. En fait, cette séparation permettait également d'y apposer les caisses à outils, ce qui permettait aux mécaniciens de travailler pratiquement un peu mieux. Et puis surtout, on marquait la différence.
C'était très symbolique. Mais en même temps, alors c'est vrai que ça a été on peut parler d'une des grosses difficultés de David Ebrivio, mais je trouve qu'il en a, il, il en a tiré un enseignement, c'est que en faisant son recrutement chez Suzuki, il a pris deux pilotes qui finalement n'ont pas du tout. Alors ils n'avaient pas le palmarès évidemment de Valentino Rossi, mais n'ont pas du tout les velléités que pouvait avoir aussi Rossi et Lorenzo. Ce que tu me disais, Jackie, parce qu'on s'est parlé pour préparer cette émission, c'est que il se retrouve dans une situation qui est très différente, dans le sens où c'est lui qui avait créé la structure Suzuki. Là, il arrive chez Alpine et quelque part l'équipe est en place.
Oui, tout à fait. Il a une équipe en place, bien évidemment. Il va être le directeur, le responsable sportif de toute cette équipe. Mais les garçons, il ne les connaît pas encore. Il ne connaît pas du tout tout le personnel qui est là. Il va apprendre à les connaître comme eux vont faire évidemment la même chose. Mais il doit maintenant, par contre, s'imposer vis-à-vis de tous ces gens-là. Alors qu'auparavant, évidemment, chez Suzuki, eh bien, c'est lui qui a amené tout le monde, donc c'était vraiment lui le patron. Là, il va falloir qu'il montre que c'est lui le patron. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis il va découvrir, évidemment, la Formule 1 qui est totalement étrangère.
Excuse-moi, Stéphane. Il y a une patte, David Brivio. Toi qui connais quasiment tous les patrons d'équipes de MotoGP depuis très, très, très longtemps, il y a une façon de faire un petit peu particulière de la part de l'Italien?
Ah, il y a en tout cas une grande discrétion, il y a en tout cas une grande modestie de la part de Davide. Il fait son chemin, mais je veux dire, on ne peut pas vraiment dire qu'il impose. Il finit par imposer, bien évidemment, mais il le fait avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de diplomatie. Et même s'il est dur, même s'il est strict, même s'il a fait des choix très difficiles, je parlais de Zarco par exemple avec Rins, n'oublions pas qu'il a eu également Lorenzo sur ses tablettes, qui s'était présenté à un moment donné pour Suzuki. En fait, il a préféré prendre Mir. On l'a vu, un choix quand même extraordinairement différent avec un jeune premier. Ben, on voit le résultat. Donc, la patte de Davide Brivio, c'est de faire les choses très, très, très bien, parce qu'on voit comment il a modifié justement la physionomie du paddock avec les deux exceptionnel camion, avec justement rejoindre les camions avec une espèce de Porsche d'entrée, et bien du coup tout le monde l'a copié. Il a amené énormément de nouveautés au paddock et il le fait toujours gentiment, discrètement, mais avec fermeté.
Est-ce que le fait d'avoir eu sous son giron un garçon comme Valentino Rossi, ça va lui donner des repères pour savoir comment gérer un Fernando Alonso qui, alors il a moins de titres que Valentino, mais c'est à peu près le même type de personnage, multiple champion du monde, latin, très fort caractère.
Oui, je crois qu'effectivement, il a face à lui des gens avec un caractère extrêmement, extrêmement fort. Donc,
Ocon n'est pas mal non plus, d'ailleurs.
Sans aucun doute. Alors là, évidemment, il a commencé très tôt, malgré tout, avec Valentino Rossi, qui n'était plus un gamin, mais qui était et un Italien également. Lorenzo, c'est malgré tout un latin, donc on peut s'entendre peut-être un peu plus facilement, mais c'est vrai qu'il va falloir s'adapter à tous ces gens-là, et je crois qu'il va quand même être obligé de modifier peut-être un petit peu sa façon de travailler vis-à-vis de ceux-là qui sont en place, même si ce pilote revient après une retraite.
Alonso.
Pardon, vous voyez, j'ai du mal entre la moto
et la... Il va falloir que tu travailles si tu veux revenir.
J'ai du boulot à faire, j'ai perdu l'habitude. Et donc, mais je pense que ça va se faire. Je pense que de toute façon, l'un comme l'autre ont très envie de réussir. Alonso, certainement, en priorité. Et puis, de son côté, Brivio veut imprimer sa patte. Et donc, je pense que ça va se faire. Il va falloir un petit peu de temps, sans aucun doute, mais ça va venir.
Le projet Alpine, c'est le projet d'Alonso, un pilote qui remonte sur des podiums, qui remporte une victoire et pourquoi pas qui vise le titre si la voiture est très réussie l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire que Davide Brivio peut choisir vraiment de sacrifier Esteban Ocon pour tout miser sur Fernando Alonso, puisque c'est ce que demandait aussi Rossi chez Yamaha par rapport à Lorenzo?
Pourquoi pas? On l'a vu de toute façon, par exemple, sacrifier Espargaro qui avait été au début du développement de la Suzuki au profit justement de Mir. On l'a vu faire des choix quelquefois stupéfiants, critiqués d'ailleurs. J'en reviens à Zarco, puisqu'après les essais qu'il avait faits qui étaient impressionnants, eh bien, il a préféré prendre à ce moment-là Rins. Donc, il a été énormément critiqué parce que justement, cette année-là, Zarco a fait des résultats exceptionnels dans l'écurie Tech 3 sur les Yamaha, mais il a assumé ses choix. Donc, pourquoi pas, effectivement, suivre une voie, la voie du succès, et il sait pertinemment la fin de victoire que peut avoir Alonso. Donc, pourquoi pas lui aussi suivre ce pilote-là, ce champion-là, pour le ramener justement à conquérir un titre qui lui est accessible si la voiture le permet.
Bon, en tout cas, on va te mandater, Jackie, pour aller tourner du côté de Viry-Châtillon, parce que je sais que tu as longtemps habité tout près, rue Amédée Gordini, quoi, tout près des ateliers de Renault F1.
À 300 mètres, effectivement, je passais des milliers de fois devant cette usine sans jamais y rentrer. Et quand j'ai commencé à bosser chez Elf, je me suis dit, ça va être l'opportunité. Et puis, en fait, non. Mais bon, ben, espérons en tout cas tout le succès pour l'écurie française. Ça, on en rêve.
Bon, faut que tu envoies un message sur Facebook, en tout cas à David Desbrivio, pour lui demander d'entrer à Viry-Châtillon, et tu nous donneras des infos.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas, Jackie, d'être venu nous parler de David Desbrivio, le nouveau directeur sportif d'Alpine en Formule 1, avec ce challenge. Moi, j'y vois vraiment un parallèle, hein, entre ce qu'il a fait avec Suzuki, c'est-à-dire une équipe aux moyens vraiment moindres par rapport à Honda, à Yamaha et Ducati, et puis réussir à faire tomber les Mercedes, Ferrari et Red Bull. Il y a un vrai parallèle, je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques.
Ah ben, complètement, écoute, effectivement, ça c'est un très bon point de vue. Alors espérons que tu aies complètement raison, espérons effectivement que cette petite Alpine bien nommée puisse reprendre. Alpine n'a jamais gagné le championnat du monde, mais en tout cas qu'elle puisse ramener à Renault ce qu'ils ont déjà gagné à plusieurs reprises. Et ça ne pourrait que nous faire plaisir, voir un nouveau fanion champion du monde sur l'usine de Viry-Châtillon. Bah, écoutez, j'aurais plaisir vraiment à aller regarder ça, photographier ça et vous l'envoyer le cas échéant.
Merci Jackie, merci en
Merci
tout cas
à vous.
de tes
Merci
informations.
Jackie.
À
Merci.
bientôt.
Merci, ça a été un plaisir. Ciao.
On enchaîne avec Lewis Hamilton, qui a donc finalement re-signé un contrat. C'était début février. Lewis Hamilton reconduisait donc son contrat chez Mercedes pour un an. Le Britannique, qui a 36 ans, donc désormais septuple champion du monde, signait pour la première fois de sa carrière un contrat sur une seule saison. Et on a voulu savoir ce qu'il y avait, hein, les dessous de ce contrat. Stéphane, je te propose d'abord quelques petits chiffres que tu es allé chercher, et notamment sur, bah, justement, les émoluments de Lewis Hamilton, qui avait débuté en Formule 1, évidemment, tout le monde s'en souvient, chez McLaren, pour 2 petits millions d'euros. Ensuite, il est passé à 18 millions de 2008 à 2012. Ensuite, il est passé chez Mercedes, 23 millions de 2013 à 2015. Et puis là, il y a un cap. À partir de 2016, il a demandé 45 millions. Ça fonctionne par palier.
Oui, alors ça, ce sont en fait des chiffres salaires bruts. On ne compte pas les primes et puis les contrats qu'il a, lui, personnel. Ça débute toujours modestement chez McLaren à 2 millions d'euros parce qu'il était débutant, tout simplement, et que la grosse pointure, c'était Alonso. Mais on voit tout de suite qu'après, il signe un contrat de 5 ans à raison de 18 millions d'euros par an. Ça, c'est une moyenne. Donc, c'est là où il devient une star et il est champion à la première saison. Et puis, il passe encore un cap chez Mercedes avec 23 millions d'euros qu'il investit dans un jet pour faire le tour du monde. Il n'avait pas encore cette conscience écologique qu'il a aujourd'hui.
Ah,
Et
c'est
puis,
beaucoup,
en 2016, après 2 titres, il signe un contrat de 45 millions. Alors là, ça explose. Tout à fait. Et le fait qu'il ait signé que pour une année sur les mêmes bases, ça montre que l'argent n'était pas le facteur clé. Ce qui nous rassure quelque part, il garde sa motivation, son besoin d'être en Formule 1, son plaisir de piloter. C'est une bonne nouvelle pour nous.
Alors, tu as employé, quand on a préparé cette émission, toi, tu as employé un terme qui je trouve qui est très adapté. Tu m'as dit, c'est un contrat d'attente, en fait, entre Lewis Hamilton et Mercedes, parce que il va y avoir, c'est à partir de 2022, hein, le fameux salary cap.
2023, ce n'est pas
C'est
une
2023.
certitude encore, mais c'est quelque chose qui est à l'étude, en discussion. Et
Un
il a
salary cap de
d'ailleurs dit,
30 millions de dollars pour les
voilà.
deux pilotes, et lui, il en prend 45 à lui tout seul.
Et il a dit qu'ils ont pris les pilotes un petit peu en traître en fin de saison dernière parce qu'ils ont commencé à entendre parler de ça sans qu'on les consulte. Et effectivement, il y a quelque chose d'impossible là-dedans. 30 millions de dollars, ça voudrait dire, là, Bottas tourne à 7 millions d'euros cette année. Ça, il en resterait une grosse vingtaine pour Hamilton. Ce n'est pas du tout ce qui. Son traitement en ce moment. Donc, son souci, ce serait de trouver en fait une façon différente d'être rémunéré. Et c'est là la question. Et je pense qu'ils ont signé pour un an. À la base, Wolf voulait signer pour 3 ans. Et Hamilton aussi était d'accord pour signer pour 3 ans. Et c'est, je pense, aussi ce fameux salary cap qui a été un obstacle parce que juridiquement, il faut poser les bases. Il faut savoir comment s'organiser et comment est-ce que ces pilotes vont pouvoir être rémunérés dans ces montants-là d'une façon un petit peu différente. Et Hamilton a dit, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réduirait mon salaire et d'ailleurs celui de mes collègues. Et ça pose question, ça pose problème. Donc, moi, je trouve qu'il ne pouvait pas signer jusqu'en 2023 pour ça, mais je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin. Ça, c'est un petit peu l'interrogation parce que ça ne sera pas mis en place l'an prochain. Donc ça, c'est la question. Mais signer pour 3 ans, c'était un petit peu le risque de devoir faire un avenant au contrat ensuite sur 2023, se mettre d'accord sur des choses sur des bases différentes. Et donc, je pense qu'ils ont préféré en fait en rester là et puis rediscuter sur des bases, enfin, sur les bases du contrat du salary cap de 2023 pour au moins s'entendre parce que je pense que c'est le type de choses aussi qui peut éloigner finalement deux parties qui étaient à la base d'accord pour travailler ensemble et qui à un moment n'arrivent plus à se mettre d'accord.
Alors, j'aimerais bien qu'on voit aussi, à titre de comparaison, ce que gagnent les autres gros salaires, hein, les trois plus autres gros salaires que tu as trouvé, Stéphane. Donc, Lewis Hamilton est à 45 millions, Max Verstappen à 30 millions, alors qu'on rappelle, hein, il n'a aucun titre mondial, Max Verstappen, et Daniel Ricciardo à 10 millions. On voit bien qu'il y a quand même une prime à ce palmarès qui est absolument somptueux, quoi.
C'est mérité. De toute façon, Verstappen, il double son salaire cette année parce que Red Bull a fait un effort pour le garder de peur qu'il aille voir ailleurs. Et puis, Ricciardo a fait un sacrifice en passant de Renault à McLaren. Il était à 25 millions chez Renault et il redescend à 10 millions chez McLaren. Donc, ça le place vraiment au-dessus. Et le problème se pose, oui, principalement pour lui sur cette question du salary cap. Mais ce contrat d'un an. Aussi, pour lui, il s'en est expliqué. C'est une saison pour lui, pour être champion du monde éventuellement une 8e fois. On n'a pas l'impression que c'est une obsession. Et ben, je ne sais pas quelles sont ses intentions après. Il aurait pu signer pour 2 ou 3 ans avec une clause de sortie aussi. Mais là, on va peut-être faire le point juste en fin de saison pour voir s'il rompt pile.
Ouais.
C'est un petit peu étrange quand même.
Moi, je pense que ça veut aussi dire qu'il n'a pas forcément envie de continuer, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui est beaucoup employée en ce moment. Je pense que Lewis Hamilton, il a plein d'autres choses dans sa vie. Il a envie de voir plein d'autres choses que la Formule 1. C'est sa passion, c'est son métier aussi. Mais qu'à un moment, il veut se réserver le droit de dire, bon, bah voilà, ça y est, maintenant j'ai envie d'aller ailleurs. Il a exigé. On a pensé, et je pense que ça n'a pas aidé, que le fait qu'il exige qu'il y ait une fondation qui soit créée avec des fonds de Mercedes et ses fonds propres à lui, je crois qu'ils ont mis 2 millions, à peu près 2 millions d'euros chacun dans cette fondation qui doit œuvrer pour l'égalité et contre le racisme. Ça, c'est quelque chose qui lui tenait aussi à cœur et on le voit de plus en plus investi, hein, évidemment. En 2020, on l'a vu très très investi dans le mouvement Black Lives Matter. C'est lui qui a quand même secoué le landerneau de la Formule 1 et qui a bouleversé le protocole de mise en place des Grands Prix. Et je pense que c'est aussi une façon pour lui de se garder le temps de voir s'il avait vraiment envie, éventuellement après ce 8e titre, de continuer ou pas.
Oui, puis ça lui permet effectivement de mettre. Tu as raison, Gilles, Mercedes sous pression, avec une petite question qui n'a pas été réglée, dont on a entendu parler, c'est la fameuse clause Verstappen demandait-il un droit de regard sur le nom de son coéquipier? Est-ce que c'est là-dessus que ça a chopé? Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2023 avec des clauses de sortie. Il y en a toujours, de toute façon, clairement, des clauses de performance. Verstappen. Une année devait, je crois que c'était en 2019, être dans les 3 premiers du championnat après le Grand Prix d'Hongrie pour que Red Bull le reconduise automatiquement. Donc il y a des choses comme ça. Et on sait globalement qu'il a envie d'être tranquille pour la fin de sa carrière chez Mercedes. Et Toto Wolff, son patron, a fait un petit pas en avant en disant que les deux pilotes avec qui il discuterait en premier pour 2022, ce seraient ses pilotes actuels, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Donc, c'est au moins un gage supplémentaire pour continuer. normalement, tous les voyants sont verts. Il n'y aura peut-être pas besoin d'une clause Verstappen écrite pour que Lewis Hamilton termine sa carrière comme il le souhaite, en pilote numéro 1, en pilote leader chez Mercedes.
Ouais, et puis, on en reparlera, hein, évidemment. Hein, c'est un feuilleton qui ne fait que débuter, mais ça lui laisse aussi la possibilité, éventuellement, puisqu'on sait qu'il y aura une refonte technique en 2022, de voir si le projet, et d'ailleurs ça met la pression sur Mercedes, si le projet Mercedes est aussi intéressant, ou bien s'ils sont un petit peu à la traîne, éventuellement, ça peut influencer sa décision de continuer chez Mercedes, de continuer tout court, ou alors d'aller chez quelqu'un d'autre. On en reparlera, on a toute une saison pour ça. Pour terminer cette première émission de la saison 2, Stéphane, je te propose quelque chose d'un petit peu plus léger. Là, on a parlé argent, c'est toujours un peu indigeste. Parlons décoration, art, goût, esthétique, voilà, des Formule 1 de cette saison 2021. Alors, on s'est réunis, on a demandé à 5 personnes de voter, donc vraiment sur un critère purement esthétique, purement subjectif. Peut-être que vous, devant votre ordinateur ou en écoutant ce podcast, vous n'allez pas du tout avoir la même analyse. Ce n'est pas grave, hein, on ne dit pas qu'on a raison et que vous avez tort. C'est juste pour vous dire, nous, ce qu'on a pensé. Il y a Adrien Yo, hein, le responsable de cette émission, Julien Pereira, qui vient régulièrement nous donner son avis, écrire sur les sports mécaniques sur Eurosport.fr. Toi, Stéphane, Clément Lemaître également, et moi-même. Donc, on a fait un petit classement et donc on va remonter ce classement en commençant par l'équipe qui a reçu le moins de suffrages, c'est Alfa Romeo. J'ai envie de dire, il se passe rien sur cette voiture, hein. On a l'impression de revoir celle de l'année dernière, en fait.
Alors, c'est un mix, ils ont gardé le blanc de Sauber et le rouge d'Alfa Romeo, mais on reste à mi-chemin, parce que une Alfa Romeo, c'est rouge ou rien du tout. Et malheureusement, cette couleur est prise par Ferrari. Et tu l'as bien remarqué, en fait, Gilles, depuis des années, il n'y a plus aucune écurie qui arrive en peignant sa voiture en rouge.
En rouge.
Ce serait presque sacrilège. Voilà.
Exactement. Les plus proches, ça devait être les Marussia, non ? Il y a peut-être que. Ouais, où il y a eu les, où il y a eu les HRT. Mmh. Ouais, les HRT, ouais, bon, bref. Williams, alors là, je vais vous dire la vérité. Moi, Williams, je les avais mis presque sur le podium. Et en fait, non, tout le monde a absolument poussé des cris en voyant la nouvelle Williams. Moi, j'avais opté pour aller l'originalité, le panache. Bon, ça n'a pas du tout marché. Toi, tu dis, c'est moche.
Alors, c'est moche, c'est maladroit. les nouveaux propriétaires essaient de tourner une page. C'est un petit peu dommage parce qu'on peut garder les codes de l'écurie qui sont blanc et bleu nuit. Ça aurait été très sympa. Et là, ce qui me gêne plus, alors les rayures déjà, c'est juste pas beau, quoi. C'est qu'on a l'impression qu'il y a deux designers différents qui ne s'entendaient pas et à qui on a dit, alors il y en a un qui va faire l'avant de la voiture et l'autre l'arrière. C'est affreux. Hein, deux designers qui se disputaient. Bon, et je ne sais pas si tu vois quand même, cette écurie a, je crois, 4 sponsors, dont un qui est affiché sur le capot, et le nom du sponsor est illisible à cause des rayures. Enfin, il ne se voit pas bien. Moi, je trouve, c'est un saccage complet.
Un saccage complet, bon ben voilà, comme ça moi ça c'est dit. Je pense que ça ne sera pas la livrée définitive. On en reparlera, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer. En 8e position, As, je pense que As, alors pour l'instant, moi je n'ai pas vu de gros sponsor sur la voiture. Je pense que ça peut évoluer s'ils arrivent à trouver un sponsor avec Monsieur Mazépine. As, pareil, il n'y a pas grand chose sur l'auto. Hein.
Alors, elle est bien faite, mais c'est assez impersonnel. C'est blanc avec les couleurs du drapeau russe. C'est d'ailleurs assez controversé puisque Mazépine, normalement, n'a pas le droit de courir sous licence russe et de montrer des symboles russes, des couleurs qui rappellent la Russie en raison du bannissement des athlètes russes suite à l'affaire de dopage d'ampleur après ouais. Sochi 2014. Bon, certes, voilà. Pendant beaucoup d'années, ça a été la couleur privilégiée des nouvelles écuries parce que finalement, quand on ne sait pas quoi faire, on met du blanc et puis on est sûr de pouvoir mettre assez facilement des sponsors dessus. Mais on voit sur Internet, en fait, régulièrement des designers qui font des belles propositions Et autour de ce bleu, blanc, rouge, comme ça, autour du drapeau rouge, je trouve que du drapeau russe, il y avait quelque chose d'un petit peu mieux à faire. Donc, ce n'est pas fou, ce n'est pas moche, mais ils ont peut-être raté une petite occasion de se distinguer.
Bah tiens, c'est à peu près la même conclusion que j'ai pour AlphaTauri. Ils ont manqué l'occasion de se distinguer. J'ai l'impression de revoir la voiture de l'an dernier.
Ah ben complètement, et c'est à peu près le même parti pris qu'Alfa Romeo, sauf que c'est une livrée finalement commerciale. Elle est bleue et blanche qui correspond en fait aux couleurs de la marque.
C'est ça. C'est une marque de vêtements, hein, AlphaTauri, hein,
C'est ça.
faut le rappeler. Sixième place pour. Sacrilège. Ferrari en sixième position. Mais bon, le sacrilège, il n'est peut-être pas d'avoir mis Ferrari en sixième position. Il est peut-être d'avoir mis du vert sur cette voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Maranello?
Ouais, ça pique les yeux, Gilles. Je suis d'accord avec toi, là aussi. En fait, ils ont un sponsor qui ne peut pas s'afficher directement, qui cherche à faire parler de lui. Et je pense que c'est aussi un petit peu une façon d'intriguer, de se faire remarquer. On n'en
C'est une
dira
marque
pas
de
plus parce
cigarette,
qu'on
hein.
veut, voilà, on
C'est une
veut pas
marque de
faire de la
cigarette.
publicité. Donc, moi, j'ai toujours occulté cette notion-là. L'année dernière, ils nous ont expliqué qu'ils ne pourraient peut-être pas afficher le logo sur tous les grands prix. Ils avaient des problèmes. C'était un petit peu pour attirer l'attention. Et je crois que ce vert est là en partie pour ça. C'est maladroit, c'est très maladroit, franchement. Qu'est-ce qu'en pensent les tifosi?
Ouais, c'est sûr. Cinquième position pour McLaren. Ben. Alors, ils sont un peu plus haut que AlphaTauri, et pourtant, j'ai exactement la même analyse. À première vue, tu te dis, ben, c'est la voiture de l'année dernière qu'ils ont remis en piste. Je ne parle pas des nouveautés techniques, hein, on parle vraiment juste de l'esthétique. Alors, au moins ont-ils pour eux que c'est la couleur historique de Bruce McLaren, l'orange.
Voilà, c'est ça, c'est tout. Et c'est pour moi, ça suffit déjà amplement. C'est l'ADN. Il faut remercier Zak Brown d'avoir remis ce orange papaye sur les voitures. Et puis, tu la reconnais entre mille, Gilles. Voilà,
C'est
comme une
vrai.
Ferrari rouge. Donc, ça, je trouve ça génial. C'est un bon signal envoyé aux fans qui ont adoré cette livrée.
Sur le podium, la Red Bull. Alors, on sait qu'il y a toujours des petites retouches, mais la déco de base, elle reste la même avec un effet mat qui est quand même pas mal, hein, sur la Red Bull. Ils savent faire. Ils savent faire.
Il l'avait déjà fait, Gilles, et tu l'as dit, ça dure depuis 2005, c'est-à-dire que c'est une livrée qui a été réussie d'entrée et qu'ils gardent. Ils ont raison. Là aussi, c'est pareil, on voit, on sait que c'est une Red Bull. Ce bleu comme ça est beau, il est classieux. Je trouve ça très joli.
Alors j'ai dit une bêtise, ils ne sont pas du tout sur le podium, ils sont quatrième chez Red Bull. On attaque le podium maintenant avec la Mercedes qui est de nouveau, hein, sur une dominante très sombre. On se souvient que l'année dernière, ça avait été un désengagement pris par Mercedes justement en parallèle du mouvement Black Lives Matter. Et puis bah, finalement, ils se sont aperçus que ça a peut-être plutôt bien marché, que ça donne un look un peu méchant à cette voiture. Et du coup, ils ont reconduit l'expérience. Je trouve que c'est un peu plus recherché quand même que l'année dernière.
Oui, mais alors moi, ce qui me gêne juste, c'est qu'on ajoute une couleur en plus. Alors pour moi, les Mercedes, ce sont les flèches d'argent. Donc on s'est écarté de ça pour des bonnes raisons, hein, clairement. Le noir, couleur de base. Le vert qui s'intégrait bien. Et puis là, on rajoute une autre couleur sur le capot moteur. Ça change un petit peu, mais on perd finalement un petit peu l'idée directrice. Bon, c'est beau, c'est réussi, mais ça, je trouve que ça claque pas, quoi. Je la préférais en gris,
Ah
pour tout
ouais,
dire.
d'accord.
Oui.
Ah ouais, j'aime bien, moi, j'aime bien comme ça. Et ça me semble pas scandaleux qu'elle soit
Ouais,
sur
moi
le
je l'avais pas
podium.
mis sur le podium.
À la deuxième place, bah la nouvelle venue, en fait, la nouveauté, hein, de cette saison 2021, Aston Martin. Et là, alors, il y a eu des conditions météo qui ont beaucoup évolué du vendredi, samedi au dimanche à Sakhir. On a eu tempête de sable le vendredi. J'ai même l'impression que l'Aston Martin, elle n'a pas été tous les jours de la même couleur. Évidemment, on attend d'une Aston Martin qu'elle soit verte, c'est obligé. Et il y a des nuances qui jouent selon les lumières. Et je me demande même si on n'a pas eu plusieurs couleurs différentes.
Oui, alors moi, ça me rappelle ma première expérience sur un circuit, en fait, pour aller voir les McLaren de Prost et Senna. qui étaient blanches et rouges. Et en fait, ce rouge était un orange fluo pétant,
oui,
et qui devient rouge en fait à la télévision. Donc, de là l'importance de travailler les couleurs. C'est ce qu'a fait Ferrari pendant quelques années. L'année dernière, dans quelques années, ils avaient fait un rouge un peu plus écarlate en expliquant que ça passait mieux à la télé. Il faut faire aussi attention à ça. C'est en tous les cas un brillant retour du British Racing Green, et j'espère qu'il sera mieux incarné que chez Caterham ou que chez Jaguar, qui étaient deux expériences qu'on a connues qui ont tourné court. Et pour ça, en fait, ils ont mis de côté leur gros sponsor qui leur imposait une voiture rose. En fait, ils ont juste gardé un petit liseré qui est bien intégré, y compris sur les combinaisons des pilotes.
Exactement. On rappelle, tu parlais du British Racing. Parce qu'il faut quand même rappeler pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent ou qui regardent, c'est que il y a très très longtemps, en fait, les voitures portaient les couleurs de leur nation. Les voitures anglaises, britanniques étaient vertes, les voitures allemandes étaient grises, les italiennes étaient rouges. qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre? Les françaises.
Les allemandes étaient blanches. Les...
Oui, j'ai dit grises. Bah non,
les françaises étaient
bleues.
Bleues.
Exactement. Oui. Et donc, à la première place du podium, l'Alpine. Qui n'est pas complètement bleue, et moi dans mon classement personnel je ne l'ai pas mis première parce qu'elle n'est pas complètement bleue. C'est pareil, ils se sont disputés, ils n'avaient pas assez de peinture pour aller jusqu'au bout, il restait du rouge, ils ont dit mets du rouge et puis voilà. Et c'est dommage, une Alpine c'est bleu.
Alors Gilles, cette voiture fait un tabac vraiment sur les réseaux sociaux. On a été 4 sur 5 à la placer en tête. Elle fait
j'aime
le
bien
limité,
bleu,
franchement.
Hein.
Elle est très très loin devant tout le monde. Alors, d'abord, c'est un bleu historique, c'est un bleu métallisé qui est du plus bel effet, franchement. Et puis, ils ont tenu à cette touche tricolore bleu-blanc-rouge sur l'arrière de la voiture qui est aussi très bienvenue, je dirais. C'est pour affirmer le caractère français, en fait, de la marque, pour se positionner par rapport à Ferrari, qui est une voiture italienne, par rapport à l'Aston Martin, qui est du vert britannique historique en compétition. Et je trouve que là, ils ont réussi quelque chose, puisqu'on avait beaucoup tourné autour de variations très différentes chez Renault, du noir, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait dans l'histoire de l'écurie, des livrées qui changeaient quasiment tous les ans, et on s'y perdait. Et là, en fait, Alpine a rassuré en fait les fans de la marque et qui ont adopté tout de suite cette livrée et qui ont dit effectivement cette livrée est authentique, elle est magnifique. Je trouve ça génial pour poser les fondations d'une marque qui arrive juste en Formule 1. Les codes sont bons.
Alors juste une petite observation sur l'ensemble du plateau. On a perdu du rose, donc, puisque on se souvient que les Racing Point étaient roses et que désormais les Aston Martin sont vertes, et on a perdu le jaune de Renault. Ça risque donc de faire une grille un petit peu plus terne.
Oui, je regretterais le jaune de Renault que j'aimais bien quand même. C'était la couleur de la marque, c'est aussi le nom qui disparaît, enfin pas complètement puisque le moteur sera badge Renault dans l'Alpine, mais c'est bon, le rose c'est pas une couleur courante en Formule 1.
C'est le sponsor.
Voilà, il y a juste le jaune de Renault qui disparaît.
Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce petit vote qu'on a fait entre nous sur l'esthétique des Formule 1 du plateau 2021. On fait juste une toute petite tout petit crochet pour vous dire que sur cette saison 2021, on en reparlera mardi prochain, mais il y a donc 23 dates inscrites au calendrier et sur certaines épreuves, on est en train de parler, ça se discute en ce moment, hein, si ça se trouve au moment où on enregistre ce podcast, on est en train de l'évoquer, le fait de pouvoir faire des courses de qualification donc le samedi sur éventuellement 3 grands prix. Il faut se mettre d'accord entre les patrons d'écurie et les instances dirigeantes. On t'interrogera là-dessus la semaine, Stéphane. Je pense que tu vas nous sortir le bazooka, la sulfateuse, le bombardier, tout ce que
tu connais bien, Gilles.
Oh oui, oh oui. Mais voilà, on en parlera la semaine prochaine. puisqu'on aura deux rendez-vous hein, donc des fous du volant, celui qu'on vient de vivre aujourd'hui et notamment avec notre invité Jacques Hutto. Et on se retrouvera mardi prochain pour terminer d'installer le décorum avant le grand début de la saison à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn le 28 mars. On est bon, Stéphane?
Oui, vivement la prochaine des fous du volant.
Ouais, Gilles. Et puis vivement le premier Grand Prix aussi. Un petit mot pour remercier Adrien Yo qui est quelque part en coulisses et qui gère, qui veille au bon fonctionnement. On se retrouve mardi prochain pour le numéro 2 de la saison 2 des Fous du Volant. Et en attendant, avec Stéphane,
on coupe le contact.
On va y arriver un jour à être vraiment synchro.
On l'a été pour la dernière de 2020.
On va s'entraîner.